Je demande un immense enseignement public, donné et réglé par l'État, partant de l'école du village et montant de degré en degré jusqu'au Collège de France, plus haut encore jusqu'à l'Institut de France. Les portes de la science, toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences. Pas de commune sans une école, pas un village sans un collège. Discours de Victor Hugo à l'Assemblée nationale en 1849.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
L'école a été, au cours du XIXe siècle et du XXe siècle, un des grands débats que la nation française a eu à régler. Ce fut même un débat souvent âpre, amenant à des manifestations, à des querelles, à des grands débats parlementaires. Effectivement, la question de la scolarisation des Français et du partage de cette éducation entre le monde catholique et l'État a été un vrai débat. Quand est-ce que l'on peut voir effectivement un effort conséquent de la part de l'État pour scolariser les Français? De ce point de vue-là, la monarchie de Juillet a été sans doute un moment important. En effet, en 1833 est adoptée la loi de François Guizot, ministre de l'Instruction publique, qui demande à installer des écoles normales dans chaque préfecture afin de former des instituteurs et également de développer dans chaque village un enseignement primaire dans des écoles qui seraient progressivement ouvertes à tous. Donc Guizot a bien le sentiment qu'il faut, à côté de l'enseignement catholique traditionnel, que l'État joue un rôle. Néanmoins, il n'exclut pas le clergé et l'Église de cet enseignement, puisqu'il est possible que des prêtres s'occupent eux-mêmes d'enseignement de l'État, tout comme des religieuses. Au cours de la Seconde République, en 1850, la loi Falloux favorise d'ailleurs la création d'écoles, dont de nombreuses écoles catholiques. Cette loi Falloux a indéniablement donné un élan nouveau à la création d'établissements scolaires. D'ailleurs, à la fin du Second Empire, en 1870, les historiens estiment à environ 70% des Français qui sont alphabétisés, ce qui est un nombre conséquent au sein de la société française. Quand la Troisième République s'installe, il y a tout de même une querelle qui n'est pas encore totalement vidée, c'est la querelle finalement entre le projet scolaire d'un État face au projet scolaire de l'Église. De ce point de vue-là, les lois Ferry de 1881-82, si elles ne créent pas l'alphabétisation des Français et le système d'école en France, va indéniablement créer un système qui, sous le contrôle de l'État, vise à chapeauter l'éducation des petits Français. Puisque les lois Ferry vise à créer une école laïque, c'est-à-dire dont l'influence de l'Église serait exclue, gratuite et obligatoire. Cette obligation n'allait pas de soi, car dans une bonne partie de la société, en particulier dans une bonne partie du monde rural ou du monde artisanal, l'enfant était finalement vu non pas comme un élément qui puisse être donné à l'école pour l'instruction, mais un élément qu'on allait utiliser en famille pour travailler à la ferme ou dans l'atelier. En tout cas, les lois Ferry viennent effectivement à la fois laïciser l'enseignement et prolonger un effort commencé plusieurs dizaines d'années auparavant. Mais on a tendance à oublier une autre loi des années 1880 qui est extrêmement importante, c'est la loi Goblet de 1886, puisqu'elle prévoit la laïcisation du corps enseignant. Effectivement, comme je l'ai signalé tout à l'heure, de nombreuses religieuses en particulier travaillaient dans les écoles primaires publiques. Or, au nom de la laïcité, il s'agissait progressivement de les remplacer par des institutrices. Alors effectivement, le remplacement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais au cours des 15 années qui ont suivi la loi Goblet de 1886, eh bien, il y a eu une progressive laïcisation de ce corps enseignant, en particulier féminin. D'autre part, l'État républicain a également voulu, je dirais, porter un coup à l'enseignement catholique avec la loi sur les associations. Parce que cette loi sur les associations de 1901 a été utilisée contre les congrégations, et en particulier des congrégations enseignantes, qui ont été bien souvent expulsées à partir de 1902, 1903, 1904, et qui ont trouvé refuge en Belgique, en Espagne, en Italie. À titre d'exemple, le jeune Charles de Gaulle a fini ses études en Belgique pour suivre les pères chez lesquels il faisait ses études secondaires. Ces congrégations seront effectivement progressivement de retour après la Première Guerre mondiale, mais il est indéniable que à ce moment-là, s'est installée dans le paysage politique français et le paysage social français la querelle des deux écoles, l'école de l'État et l'école confessionnelle essentiellement catholique.
Dans le Lot-et-Garonne, on bouffait du curé, on priait la Madone le dimanche en Vendée. Des cailloux de Provence au château d'Aquitaine, on chantait la Durance, on pleurait la Lorraine. Dans le Rhône et l'Essonne, on chassait les abbés, on plantait en Argonne des croix de Saint-André. Des sommets du Jura au jardin de Touraine, on pleurait la Savoie, on chantait la Lorraine.
Après la Première Guerre mondiale, il y a, je dirais, une espèce de statu quo qui, finalement, va perdurer durant l'entre-deux-guerres. Mais avec le régime de Vichy, l'État français, il y a des nouveautés. En effet, en 1941, l'État accorde des aides publiques aux écoles primaires catholiques. Certes, à la Libération, elles seront supprimées, mais le débat est finalement réapparu quelque peu et la loi de 1951, votée donc au début de la deuxième législature de la quatrième République, la loi Béranger va faire que l'on va accorder à nouveau quelques aides publiques modestes, mais qui vont provoquer l'émoi du camp laïque. Mais le grand débat va être au début de la Ve République. En janvier 1959, le gouvernement de Michel Debré s'installe et celui-ci va faire adopter à la fin de l'année la loi Debré, qui porte le nom du Premier ministre et qui va modifier effectivement le rapport entre l'école confessionnelle et l'État. En effet, la loi Debré prévoit des aides substantielles à l'enseignement confessionnel, mais à une double condition, c'est que celui-ci passe un contrat avec l'État, c'est-à-dire que les établissements sont obligés d'appliquer les programmes d'histoire, de géographie, de français, etc., prévus par les programmes publics, et également un contrôle sur le corps enseignant, puisque les inspecteurs de l'éducation nationale sont susceptibles de venir contrôler le travail effectué dans l'enseignement catholique. Cette loi de 1959 avait soulevé bien des polémiques et des controverses et la fin de l'année 59 et l'ensemble de l'année 60 avaient vu un peu partout en France des manifestations du camp laïque contre la loi Debré, mais qui finalement s'était maintenue. Il est vrai qu'à l'époque, la grande préoccupation des Français était sans doute plutôt la guerre d'Algérie. Cette loi Debré avait été complétée en 1977 par la loi Germer qui prévoyait de mettre sur le même niveau, au niveau des conditions salariales et des conditions de retraite, les enseignants du public et les enseignants du privé. Mais la querelle sur l'école s'est ranimée après 1981. François Mitterrand, qui avait été donc élu le 10 mai 1981, avait dans son programme la création d'un vaste ensemble éducatif contrôlé par l'État et qui serait finalement un regroupement de l'ensemble des établissements. Or, le camp catholique, là, a estimé que l'on touchait à une liberté importante, le véritable choix entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Et l'année 1984 a vu énormément de manifestations contre le projet Savary, du nom du ministre de l'Éducation nationale, et le point d'orgue de ces manifestations a été sans doute celle qui a réuni entre Versailles et Paris le 24 juin 1984, alors entre 800 000 selon la préfecture de police, 1 800 000 selon les organisateurs, disons que nous sommes sans doute aux alentours des 1 200 000, 1 300 000 de personnes, ce qui est immenses qui ont manifesté pour la défense de l'école privée. Finalement, le gouvernement Mauroy a abandonné le projet et d'ailleurs le Premier ministre a démissionné le 17 juillet. Mais 10 ans après, vous avez, je dirais, un contre-feu parce que le gouvernement d'Édouard Balladur avait cherché à modifier la loi Falloux et cette modification a été très mal prise par le camp laïque, ce qui fait qu'en janvier 1994, la France a connu de très nombreuses manifestations en défense de l'enseignement public. Et finalement, la décision du Conseil constitutionnel d'invalider le projet de loi du ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, a peut-être d'ailleurs enlevé une épine dans le pied du gouvernement. Depuis 1994, le débat est finalement apaisé. Il n'y a plus eu l'occasion, ni d'un côté ni de l'autre, de faire de très grandes manifestations. Si l'on fait le point aujourd'hui, eh bien, on peut dire que l'enseignement privé en 2018 représente 20,7% de l'enseignement secondaire. Et cet enseignement privé a connu une augmentation de 93 000 élèves de 2009 à 2019. Il faut tout de même signaler qu'il y a environ 200 écoles hors contrat, dont un tiers appartiennent à la mouvance traditionaliste. Ce qu'il faut aussi signaler, c'est que nous avons également une trentaine d'écoles protestantes sans contrat qui sont de tradition évangélique, 5 établissements protestants étant sous le contrôle de l'État, et 292 établissements juifs qui regroupent 32 000 élèves. Quant aux musulmans, il y a environ une soixantaine d'écoles, dont seulement 5 sont sous contrat selon la loi Debré.